voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Nathalie Cabrol, astrobiologiste.
Troisième épisode, explorer le monde physique. Bonsoir Nathalie Cabrol.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez parlé de l'aventure spatiale et des progrès de l'astrobiologie. Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de vos expéditions ou de vos aventures scientifiques qui ont d'ailleurs été menées ou qui continuent d'être menées en parallèle des progrès de l'astrobiologie. Peut-être d'abord parce que vous avez une conception de la science particulière, à la fois fondamentale et appliquée, à la fois théorique et physique, je ne sais pas.
C'est simplement que... Il est important de garder des fondations dans le concret. On peut faire beaucoup de théories, on peut regarder des images, on peut essayer de les interpréter, ce qu'on fait beaucoup avec la planétologie. Mais depuis les années 70-80, on a aussi perçu l'importance de l'exploration de la Terre et des environnements extrêmes sur Terre pour essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs dans le système solaire. Parce qu'en même temps qu'on découvrait les paysages des planètes comme Mars, comme Europe, comme ou même Encelade, on s'est rendu compte qu'il y avait des paysages sur Terre qui étaient assez semblables et des conditions qui étaient assez semblables. Et donc, on peut pas toujours aller sur une planète, c'est loin, ça coûte quand même suffisamment d'argent, on peut pas faire des missions tous les quatre matins, mais par contre, on peut s'entraîner et on peut essayer de comprendre comment explorer ces planètes en utilisant les milieux extrêmes terrestres pour s'entraîner, pour tester les technologies. Donc, c'est ce que j'ai fait à cette époque-là. J'ai poussé Gusev avec Edmond pour Gusev Crater, qui était le site d'atterrissage pour la mission de Spirit. Et une fois que Gusev a été sélectionné, pensant un petit peu à ce qui allait se passer après, Gusev, c'était une démonstration de l'habitabilité de Mars dans le passé.
Ça veut dire un énorme cratère.
Un énorme cratère de 160 km avec une vallée qui s'écoulait à l'intérieur, une vallée très ancienne. Ensuite, probablement un lac recouvert par des laves. Ensuite, il y a toute une histoire géologique intéressante. Mais à l'époque où il y avait ces lacs dans Gusev, la question c'était: Gusev était habitable à cette époque-là, il y a 3,8 milliards d'années, très très longtemps. Mais habitable, est-ce que ça veut dire habiter? S'il y avait eu de la vie dans Gusev, à quoi elle aurait ressemblé? Et si on voulait la chercher, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et donc ce sont ces questions-là qu'on exporte un petit peu dans les milieux extrêmes terrestres. On trouve des endroits sur Terre qui ressemblent à Mars à cette époque-là. Et quand je dis Mars, ça dépend ce que vous voulez explorer. Si vous êtes intéressé par les mondes glacés ou les mondes océans comme Europe ou comme Encelade, par exemple, vous pouvez aller en Islande, vous avez ou sur les calottes polaires, vous avez ces interfaces entre l'océan et la glace. Et donc ça dépend véritablement de ce que vous voulez explorer. Mais pour moi, la question c'était: est-ce que si Mars était habitable, s'il y avait eu de la vie sur Mars à cette époque-là, à quoi elle aurait ressemblé et qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise pour pouvoir la détecter? Et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans une aventure qui dure encore dans les Andes. Pourquoi les Andes? Tout simplement parce que c'est non seulement un paysage absolument grandiose, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la science. C'est vraiment affectif après toutes ces années. C'est surtout parce que l'altiplano et les Andes sont tellement hauts. Les volcans culminent, le plus haut est près de 7000 mètres, mais la plupart culminent autour de 6000 mètres. Et à cette altitude-là, vous avez une pression atmosphérique à peu près la moitié de celle du niveau de la mer. Et donc, ce 500 millibars, ça ressemble furieusement à ce que Mars avait il y a 3 milliards et demi d'années. Mais pas seulement ça, plus vous allez haut, moins l'atmosphère est épaisse, et donc plus vous avez de rayonnement ultraviolet, ce qui a aussi été une des caractéristiques de Mars à l'époque. Et puis vous avez un paysage qui est étonnant de volcans, de sources hydrothermales qui sont vraiment à la base des paysages planétaires primitifs comme la Terre et Mars. Donc non seulement on apprend beaucoup sur l'ancienne Mars en allant là-bas, mais on apprend aussi beaucoup sur la Terre de nos origines quand on étudie la région entre la Bolivie, le Chili et le Pérou. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe à l'heure actuelle, malheureusement, qui est une grande transformation du paysage à cause du changement climatique. Mais ça, de ce côté-là, ça a joué en notre faveur, parce que ce que nous étudions aussi, c'est le changement climatique qui s'est produit sur Mars il y a 3,5 milliards d'années, pour comprendre comment, d'un seul coup, la vie en surface n'était plus possible, mais si la vie avait existé avant ce changement climatique, qu'est-ce qu'elle aurait fait pour s'adapter et où est-ce qu'elle aurait été ?
Gardons cette question du changement climatique pour tout à l'heure et restons un temps sur les origines de la vie que vous allez donc traquer au sommet de volcans de 6000 mètres. Mais une question toute naïve que je suis, puisque on vous a quitté, Nathalie Cabrol, vous étiez plongeuse, mais pas encore montagnarde. C'est Edmond qui vous a initié à l'escalade. Alors, racontez-nous vos premières expériences d'alpinisme. C'était en Auvergne, pays de lac et de volcans déjà, non ?
Il y a quand même un épisode avant celui-là. Et celui-là, c'est Chamonix.
C'est
peu de temps avant, c'est peut-être un ou deux ans avant, mais c'est une des premières années où nous revenions de vacances. Et on était en Grèce et on s'est arrêté à Chamonix en venant. Et une après-midi, Edmond me dit viens, on va monter par le glacier des Bossons. Et puis on était sur le sentier qui menait au Mont Blanc. Et on se trouve tous les deux au pied du sentier. Je regardais le Mont Blanc, j'ai regardé Edmond, j'ai dit, mais pourquoi tu veux monter puisqu'il faudra qu'on redescende? Non pas que j'aimais pas ça. Et il m'a regardé, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. Il m'a dit, parce que c'est difficile. Et on a monté ce jour-là et on a commencé tous les deux ce chemin ensemble sur la montagne. C'est un chemin qui a duré donc 36 ans, en fait. Et puis, ensuite, évidemment, il y a l'Auvergne. Alors, l'Auvergne, c'était nos escapades, c'était notre petit coin de récréation. Mais c'est aussi là où il m'a appris, en tout cas, il a essayé de m'apprendre le rappel. Et c'est une petite aventure au Puy-de-Sancy où il avait tout le matériel dans la voiture. Et puis, il m'a dit, tiens, il y a un bon affleurement, là, 5 mètres. Il a accroché la corde et m'a dit, je vais t'apprendre à faire du rappel. Il m'a attaché le harnais, j'étais en haut, il est descendu, il m'a assuré. Et évidemment, il était facilement distrait. Et alors qu'il m'aidait à descendre, il y a des chevaux qui sont passés un petit peu plus loin et qui ont henni. Ça l'a surpris, il a lâché la corde. Il l'a rattrapé avant que j'arrive sur la route. Mais mon premier souvenir de rappel, ça a été un contact extrêmement fort contre la paroi de rocher. Et ces talents d'infirmier laissaient beaucoup aussi à désirer. Donc c'est quelque chose, c'est un souvenir un peu cuisant dans mon esprit. Mais on en a ri beaucoup tous les deux après.
Oui, ça ne vous a pas empêché de recommencer, parce qu'il y a eu beaucoup d'ascensions aux États-Unis aussi.
Mais ça s'est développé ensuite avec des expéditions professionnelles.
Et de plus en plus haut, peut-être de plus en plus difficile, puisque l'Ikankabur est un volcan donc dans le désert d'Atacama, qui est près de 6000 mètres d'altitude. Oui. Le Pocantica, il fait 5850 mètres, et donc il faut se préparer de façon très particulière pour ces ascensions. Le Pocantica, il suppose une ascension qui est très très dure, très exigeante, c'est ce que vous écrivez. D'ailleurs, vous remarquez que vous n'avez jamais eu autant l'impression de marcher à la surface d'une autre planète quand vous êtes là-haut, mais avant d'arriver là-haut, c'est une formation, un entraînement.
Absolument, et ce qui était étonnant, c'est que, en fait, mes seules expériences de montagne, à cette époque-là, la seule chose que j'avais véritablement escaladée, c'est des volcans près de chez nous, dans la chaîne des Cascades, à quelques heures de là où nous habitons. Et on s'entraînait là, sur ces volcans. Mais ces volcans, ils font 3000 mètres, 3500 mètres. C'est quand même un bon entraînement. Il y a le volcan Shasta, qui est un petit peu plus haut, 4300 mètres, qu'on a escaladé aussi. Mais la première fois que je suis arrivée au pied du Ikankabur, c'était différent. Parce que le pied du Ikankabur, il se trouve à 4500 mètres, déjà. Et ensuite, il n'y a pas loin d'une tonne d'équipement. Et vous regardez le sommet, et puis c'est là que la philosophie de mon mari m'a été utile. Et il disait, tu ne regardes pas le sommet, et c'est un pas après l'autre. Et puis, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ça demande beaucoup d'entraînement, effectivement. En plus, quand on combine la plongée avec l'escalade, le Lican Kabour est encore, il est dur parce que c'est haut en altitude. Mais techniquement, c'est pas difficile. Enfin, ça demande de faire attention. Il y a des passages qui sont un peu dangereux parce que vous avez des blocs de lave. Évidemment, c'est une série de blocs de lave, mais au moins c'est solide. Si on fait attention, ça prend du temps, c'est fatigant, mais c'est faisable. Tandis que Pocantica, c'était vraiment de la cendre et du sable. Un paysage complètement lunaire, quelque chose d'absolument incroyable. Avec Sarama, un autre volcan avec un sommet complètement enneigé qui lui culmine à 6500 mètres. Ce sont des paysages absolument incroyables. C'est un privilège absolu de pouvoir évoluer. Vous avez l'impression de remonter dans le temps et d'entrer une...
C'est ce que vous allez chercher, hein.
C'est exactement ça. Mais vous êtes plongé dans une machine à remonter dans le temps, littéralement.
Parce que vous ne vous contentez pas de monter à 6000 mètres d'altitude, même si le Lican Kabour, en l'occurrence, n'était pas très difficile à monter, nous dites-vous. Vous plongez au cœur du volcan, dans le cratère, là-haut, vous plongez. Alors, vous êtes une très grande apnéiste. Là, je crois que c'était pas possible de plonger.
J'ai fait ça pendant 2 ans.
Vous l'avez fait quand même, voilà. Et vous avez même battu des records du monde sans le savoir.
Oui, c'est comme je disais toujours, quand les gens essayent de me définir par rapport à ces records. En fait. Comme je le dis souvent, je l'ai fait complètement par accident. Je l'ai fait simplement parce que j'avais besoin d'échantillons. Et c'est un aspect de la science qui passe quelquefois inaperçu, c'est que pour aller chercher des échantillons qui sont importants pour la science, il arrive aux chercheurs de faire des choses qui seraient considérées du domaine de athlétique et sportif. Et effectivement, on est une équipe d'une douzaine de chercheurs avec des porteurs, avec des. On grimpe des montagnes, on a notre équipement de montagne, et puis quand on arrive tout en haut, 6000 mètres, eh bien, il faut changer, enfiler des combinaisons de plongée. Et je crois que. C'est encore cette photo, parce que généralement, je ne l'ai pas faite, c'est la photo que je veux faire. Il y a bien entendu des photos de moi au sommet en combinaison de plongée, mais ce que je voudrais faire, c'est être carrément sur le rempart du volcan en combinaison de plongée avec mon piolet de géologue à la main, parce que je crois que c'est ce qui définit ma vie en général.
Je me souviens de cette première question que je vous ai posée à la première émission, qui était « Est-ce que vous êtes né sous une bonne étoile ?» Là, je pense que quand même, avec ce que vous avez traversé, toutes les fois où vous avez quand même échappé à des accidents graves, vous parlez de tremblements de terre, il y a eu des tremblements de terre, éruption, je ne sais pas, sauf peut-être cette fois où le guide vous a dit « Je crois que l'Ascar est en train d'entrer en éruption. » Racontez-nous cette fois.
Oui, oh là là. Mon problème, c'est pas tellement l'équipe et les gens que j'ai autour de moi. Je crois que c'est mes anges gardiens qui démissionnent rapidement les uns derrière les autres, parce que j'en ai usé quelques-uns. Mais la fois où on a eu ce tremblement de terre, c'est un épisode assez incroyable. Il y a eu un tremblement de terre, en fait, à quelques centaines de kilomètres de là où on était, à 200 ou 300 kilomètres sur la côte chilienne. Un gros tremblement de terre, 7.8. Et les conditions ont voulu, ce jour-là, que mon chef de logistique se trouve au pied du volcan, avec une partie de l'équipe de soutien qui était là. Et... nous étions avec mon équipe, avec mon escouade, on était environ à 50 mètres du sommet. Et on passait sous une voûte en lave, parce que c'est c'est le dernier passage avant le sommet. Et d'un seul coup, je vois notre guide qui commence à me faire signe de me pousser, de m'éloigner du bord de la paroi. Et j'ai jamais discuté, ça fait 10 ans qu'on se connaissait, donc je l'écoute toujours. Mais une fois qu'on a été dégagé, j'ai été le voir, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a passé la radio. Et donc, mon chef de logistique me disait, on a un énorme tremblement de terre en bas. Ça bougeait tellement, avec 7.8, ça bouge énormément. La surface faisait des vagues. La surface de la région faisait des vagues. Et il avait véritablement de la panique dans la voix, parce que de là où il était, il voyait plus que de la poussière. Et il me dit, ça avalanche partout. et il a vu le sommet du volcan disparaître sous la poussière et il croyait qu'on avait été pris dans l'avalanche. Et j'étais très étonnée parce que là où on était, on n'a pas senti le tremblement de terre. L'onde est passée plus loin. Et je me retourne, et à ce moment-là, derrière moi, il y avait l'altiplano, la vue que nous avions seulement 2 minutes avant avait complètement disparu. Tout était envahi par la poussière. J'ai dit, OK, 7.8, on ne le savait pas encore, mais on savait que c'était important. Ben, j'ai dit, écoute, je vais monter l'équipe dans le cratère est plat, il n'y a pas de risque d'éboulement là, on sera tranquille, et puis on va attendre les répliques. Et puis, ben, vous mettez une demi-douzaine de chercheurs au sommet d'un volcan pendant un tremblement de terre de magnitude 7.8, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la recherche qu'ils sont venus faire.
Ils cherchaient leurs échantillons.
Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire parce qu'on était là de toute manière. Sauf que je ne pouvais pas parce que j'étais en communication avec le pied du volcan, avec Christian, qui était mon chef de logistique. Et donc, mon petit porteur qui était avec moi, qui m'avait accompagné pendant 2 semaines, m'a dit, Nathalie, pas de problème. Je vais faire les échantillons pour toi, tu restes là. Et moi, j'étais en communication. Et Christian continuait de m'appeler tout le temps, en me disant « il y a ceci, il y a cela ». J'ai dit « écoute, arrête ». Parce qu'il était toujours un peu paniqué dans sa voix. J'ai dit « maintenant, tu vas me donner les informations qui me sont utiles pour pouvoir gérer la situation depuis là où on est. J'attends toujours la réplique, parce qu'elle va arriver, on en est à peu près sûr. Maintenant, dis-moi ce qui se passe ». Alors il me dit « il y a de la fumée sur le volcan d'à côté ». Et il me dit, je crois que Lascar va entrer en éruption. Alors, Lascar, c'est le volcan qui partage une pente à côté du volcan sur lequel on était. Mais il est un tout petit peu plus bas, il est 300 mètres plus bas. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est celui qui explose le plus souvent dans la chaîne localement. Alors, j'ai dit, décris-moi ce que tu vois. Il me dit, bah, il y a de la fumée. Quelle fumée ? Elle est blanche. J'ai dit, c'est pas grave, c'est de la vapeur d'eau. Où elle va ? Elle va à l'opposé de là où vous êtes. Bon, je reste dans le cratère. Ça a commencé comme ça. Et il me donnait régulièrement, on échangeait ces choses-là. Et puis au bout d'un moment, il me rappelle et il me fait, les choses sont un petit peu en train de changer. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, c'est la couleur de la fumée, elle est différente. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? C'est jaune. Là, je vous dirai pas ce que j'ai dit parce que on peut pas le dire à l'antenne. Mais en fait, c'était en train de changer et c'était du soufre qui commençait à sortir du volcan. Et ça, c'est très très mauvaise nouvelle parce que quand ça se mélange avec la vapeur d'eau de vos poumons, ça tourne en acide sulfurique et on est dans le pétrin. J'ai dit bon, et dans quelle direction ça va ? Ben, il m'a dit le vent a changé, ça vient vers vous. Et au moment où il me dit ça, je me retourne et à l'autre bout du cratère, je commence à voir le nuage de soufre qui arrive à hauteur du lac. Alors j'ai dit bon, ok. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va nous tuer en premier. Le gaz, on ne le voit pas. Les rochers, on les voit. Si ça avalanche, on peut toujours les voir et puis on peut essayer de se pousser. Mais le gaz, on ne le verra pas. J'ai dit à ce moment-là, on embarque tout le monde et on descend parce que le gaz, on ne le verra pas, c'est dangereux. Et j'ai rassemblé ma petite équipe sur le bord du cratère. J'ai essayé de leur expliquer ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'avais une étudiante avec moi d'une vingtaine d'années. Elle était déjà bien aguerrie. Elle se promenait toute seule dans l'Himalaya, donc c'était quelqu'un qui était costaud déjà. Mais on ne sait jamais. Avec les jeunes gens, c'était une situation un petit peu difficile. Et j'ai commencé à expliquer ce qui se passait en leur disant il faut qu'on descende rapidement. Il y a le nuage qui arrive. Il y a encore des risques d'avalanche. Faites attention. Regardez bien à droite, à gauche. Et elle me regarde et elle se jette dans mes bras. J'ai dit. Et elle me fait « This is so cool !» C'est super, en quelque sorte, si vous voulez traduire ça. Alors j'ai dit « Ok, on est bon, on descend. » On a battu des records de vitesse pour descendre ce jour-là. Mais il est certain que... Il y a eu différents épisodes. Le moment où on a annoncé, où Christian m'a annoncé que ça avalanchait, c'était déjà pas drôle. Mais au moment où il m'a dit que Lascar entrait en éruption, là, il y a eu un moment où j'ai vraiment un petit peu, je me suis dit, bon, ben, si le volcan décide d'exploser, il y a vraiment nulle part où on peut aller. Donc, mais c'était cette espèce d'adrénaline qui a démarré à ce moment-là. Et c'était absolument étonnant comme expérience parce que, j'étais complètement froide, dans le sens où je prenais mes décisions qui étaient toutes tournées vers la survie et la protection du groupe. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de quoi que ce soit, c'était vraiment complètement froid. Et ça, on le doit évidemment à l'entraînement, parce que... Mais c'était quand même une situation extrême. Et la chose qui nous a vraiment sauvés ce jour-là, c'est que ces événements extrêmes nous ont laissé à chaque fois 2 ou 3 minutes pour réfléchir et pour prendre le temps de prendre des décisions. Si le volcan avait explosé, s'il y avait des avalanches tous en même temps, ça n'aurait pas été la même chose. Tandis que là, on a vu le nuage arriver. Les avalanches sont pas arrivées de notre côté, en fait. Et ça nous a permis de descendre. Mais véritablement, c'est quelque chose dont je me suis souvenue, dont je me souviens encore, parce qu'une fois qu'on a été en bas, ça m'a fait réfléchir, non pas pour moi, parce que c'est un risque que je prends volontiers, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et les gens qui sont avec moi, mes collègues, c'est la même chose. Ils sont là, il n'y a personne qui les pousse, il n'y a personne qui les force. Mais en même temps, on se connaît tous. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je connais leurs enfants. Je suis la marraine des petits garçons dans la famille. Et on est une famille. Et à ce moment-là, savoir le genre de danger auquel on était exposé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Parce que ça aurait pu tourner de manière très, très différente ce jour-là.
Ce qu'on comprend aussi, avec ces expériences et les autres, Nathalie Cabrol, c'est à quel point le désert d'Atacama, les Andes, l'Altiplano, ces volcans que vous escaladez pour aller chercher des sédiments, des échantillons, des traces de vie, sont des lieux non seulement importants pour vos recherches, mais des laboratoires naturels absolument extraordinaires. Les lacs d'altitude dans les Andes dans lesquels vous plongez recèlent, vous le disiez au début, les clés de nos origines, mais c'est aussi... selon les mots de Craig Williamson, un de vos collègues, des sentinelles du changement climatique.
Absolument.
Et ce que vous avez vu au sommet du Lican Kabour, pas cette fois-là, mais en 2006 notamment, c'est le déclin du lac. C'est un rocher qui est une sorte de boussole pour vous, le Chapel Rock. Ouais. Et ça, c'est aussi très très important pour aujourd'hui, notre présent et l'avenir de la Terre cette fois.
Ça a été une révélation. 2006, c'était une révélation. Et c'est toujours étonnant quand on fait un projet. Les premières années, on est centré sur comment atteindre les objectifs. Et au bout de 2 ou 3 ans, généralement, on est à l'aise avec les objectifs. Bien évidemment, la science évolue au fur et à mesure qu'on l'a fait, parce que la bonne science, elle continue d'évoluer. C'est rare qu'on trouve ce qu'on est venu chercher, mais on trouve généralement beaucoup plus de choses et encore plus intéressantes. Mais donc, au bout de 3 ans, au sommet du Lican Kabour, on savait ce qu'on venait chercher. On avait cette expédition, cette fois, avec des bouteilles, avec des recycleurs. Et puis, le matin, avant la première plongée, j'étais assise avec Edmond sur les bords du lac. Et peut-être pour la première fois en 3 ans, j'ai réalisé quelque chose que j'avais pas vu, qui était juste en face de mon nez toutes les années précédentes. C'est qu'à chaque fois qu'on était monté au sommet du Lican Kabour, chaque année, on avait vu le lac décliner. On a eu de la chance en 2006, c'est qu'il y a eu une année où le lac est remonté, donc quand on a fait la plongée. Mais j'ai dit à Edmond ce matin-là, j'ai dit, tu sais, ça fait quelques années maintenant qu'on monte pour essayer de comprendre comment Mars a changé il y a 3 milliards et demi d'années et les impacts du changement climatique sur Mars il y a 3 milliards et demi d'années pour la vie. Mais j'ai dit, ce que le Lican Kabour il nous montre aussi, c'est qu'est-ce qui est en train de changer ici et maintenant sur Terre. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à utiliser les données que je collecte pour l'astrobiologie et la recherche planétaire, pour l'étude de la Terre et pour l'étude de l'impact du changement climatique. Et en fait, c'est une direction que j'ai aussi donnée pour l'Institut, où maintenant on met un accent particulier sur le changement climatique, et c'est pas du tout artificiel, parce que ce que nous faisons en astrobiologie, c'est essayer de comprendre ce que nous appelons la coévolution de la vie et de l'environnement. Et on fait ça sur toutes les planètes, c'est-à-dire que une planète va vous donner les conditions physiques et chimiques qui sont les contraintes pour le genre de vie qui va pouvoir apparaître sur cette planète, mais une fois que la vie est apparue, elle transforme la planète par elle-même.
Et c'est l'environnement qui façonne l'évolution de la vie ou l'inverse ?
Les deux. C'est cette coévolution. C'est cette coévolution. Et donc, c'est ce que nous faisons quand nous sommes astrobiologistes. On essaie de comprendre les paramètres, les caractéristiques de ces coévolutions possibles au dehors de la Terre. Et on fabrique des instruments, on crée des technologies pour les explorer, pour les surveiller, pour essayer de comprendre tout ça. Et donc, ce qu'on fait sur Terre pour essayer de comprendre les planètes. Ensuite, les instruments qu'on développe pour explorer ces planètes, on les ramène sur Terre pour essayer de surveiller notre changement ici, sur notre planète. Donc pour moi, ça a été un révélateur. C'est quelque chose qui devient extrêmement important à l'Institut sous le thème de coévolution de la vie et de l'environnement. Et ramener cette notion sur Terre que notre planète, comme n'importe quelle autre planète, est un système, que les humains ne sont pas à l'extérieur comme ils aiment l'imaginer, mais qu'ils sont bien à l'intérieur et que n'importe quoi qu'ils vont mettre dans ce système va leur revenir. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle aujourd'hui avec le réchauffement climatique. C'est toute notre activité et les gaz à effet de serre qu'on a émis dans l'atmosphère. Ils ne s'échappent pas dans l'espace, ils restent. Et donc, il se transforme, si vous voulez, en des processus qui augmentent la température de notre planète. L'augmentation de cette température fait évaporer l'eau des lacs, par exemple, comme on le voit. Aussi, les océans, fait fondre la glace. Vous mettez plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Vous augmentez les températures, ce qui évapore encore, et vous avez un effet d'emballement. C'est comme ça que ça se passe. Et il y en a bien d'autres, parce que maintenant, comme on a beaucoup de fonte de glace et de fonte de permafrost, le permafrost, pendant des millions d'années, il a tenu le dioxyde de carbone et le méthane prisonniers sous la surface. Et maintenant que cette glace est en train de disparaître, eh bien, ces gaz à effet de serre qui étaient emprisonnés sont libérés à nouveau dans l'atmosphère et ils nous reviennent sous forme de chaleur. Donc, on est vraiment. Ce sont des choses qu'on peut comprendre et l'astrobiologie nous permet de voir, en fait, ce que je disais il n'y a pas si longtemps avec un de mes collègues. J'ai dit, on a devant nous toutes les leçons qu'il nous faut pour essayer de comprendre ce qui se passe sur notre planète. Vénus nous montre ce que c'est que l'emballement d'une atmosphère avec des gaz à effet de serre. Mars nous montre ce que c'est que l'évaporation de l'eau. Et donc tout ça, ce sont des leçons qu'on peut ramener sur notre planète pour essayer de la comprendre mieux et pour essayer de comprendre comment éviter de dépasser ces seuils critiques. Et on sait tout ça. Et les scientifiques le disent et le répètent. Et malheureusement, la politique de l'autruche ou le fait de ne pas écouter, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer le résultat de cette chose-là.
Et l'idée, c'est plutôt de corriger ce qu'on est en train de faire, donc les effets du réchauffement climatique, plutôt que d'aller continuer d'explorer les planètes, mais plutôt que d'aller coloniser certaines planètes et d'aller ailleurs.
Je dis, on peut faire les deux, et on doit faire les deux. Et c'est important de faire les deux et de continuer de faire les deux, parce qu'on apprend beaucoup plus de choses et on développe plus rapidement les technologies. Mais ce qui est important, c'est d'explorer les planètes et d'aller sur les planètes pour les bonnes raisons. Et pas pour les mauvaises raisons. Pas pour essayer de soulager sa conscience en se disant on a salopé la Terre et il faut qu'on aille ailleurs. Non, c'est pas ça. Parce que si on fait ça, on va partir avec nos problèmes, on va les exporter, on n'aura rien résolu. Vouloir exporter l'humanité sur Mars parce que la Terre, ça va plus tellement, non, je suis pas d'accord. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. C'est pas ma vision de l'exploration.
Bon, puisqu'on était sur Terre, qu'on aimerait y rester, mais qu'en même temps, il faut aller voir ailleurs. S'il y a d'autres formes de vie, on repartira dans les étoiles et dans les planètes demain avec vous. On fait comme une astrobiologiste, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours hein, entre la Terre et l'espace.
De la Terre à Mars, de Mars à la Terre, c'est quelque chose que j'ai répété, mais il n'y a pas que Mars, il y a tellement de monde.
Eh ben, c'est ce qu'on verra, tellement de monde, on verra ça demain. À demain.
À demain.
Nathalie Cabrol, merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.